RCF.
Le carême est-il ce temps justement particulier pour chercher et peut-être trouver la paix? C'est ce que nous voyons avec vous, Père Guillaume Lefocq. Bonjour.
Bonjour Madeleine.
Vous êtes l'auteur du livre « Éloge spirituel de la paix » aux éditions Artege. La paix, dans votre livre, vous dites « la paix, c'est plus que la joie ». Pourquoi ?
La joie, c'est quelque chose auquel on aspire tous, mais elle a un côté souvent éphémère. Et en fait, je pense que j'en suis convaincu que la paix, elle prolonge cette joie. J'étais au séminaire, il y avait une plaque à l'entrée qui m'avait beaucoup marqué. Seigneur, daignez habiter cette maison, accordée à qui entre la joie, à qui demeure la paix. Voilà, on rentre, on est dans la joie, mais le fait de demeurer, c'est vraiment une vraie invitation que nous fait Jésus dans l'évangile. Il y a quelque chose de plus profond, plus durable. Et en demeurant, en cherchant, on trouve cette paix.
Et on trouve au-delà de la joie. Ça veut dire que à quel moment, au fond, la joie s'efface et laisse quelque chose de plus durable? Est-ce qu'il y a une action à mener pour ça, ou est-ce que simplement le temps aussi fait son œuvre?
Le temps fait son œuvre, mais de temps en temps, on peut être marqué par des épreuves, dans la vie. Malheureusement, on a tous des épreuves. Et au-delà de ces épreuves, on peut quand même être dans la paix. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai perdu mon frère, il y a 2 ans, qui est mort à 38 ans d'un cancer. Il avait 5 enfants, donc sur le papier, c'est horrible, c'est dramatique. Mais il n'empêche que, vu comment il est mort, il est vraiment mort dans la paix, il était disponible, il était serein. Et du coup, nous qui l'entourions, on a pu être dans la paix. Sa messe d'enterrement, qui était pleine à craquer, était vraiment un beau signe de paix, alors que en soi, c'est quand même dramatique, 38 ans, 5 enfants, etc. Mais là, on a vraiment expérimenté cette paix, et pourtant, on n'avait rien fumé, etc. Mais il y avait une paix profonde qui se dégageait et qui nous continue à nous toucher depuis deux ans au-delà de cet événement.
À quoi est-ce qu'elle tenait, cette paix, d'après vous? Qu'est-ce qui fait qu'elle pouvait être présente? Vous parlez de disponibilité de votre frère, c'est une disponibilité à quoi?
Moi, je suis convaincu que cette paix, elle était liée avec la foi, parce qu'il partait dans l'espérance, il était... il n'y avait pas cette révolte, même si il aimait sa femme, il aimait ses enfants, il y avait un départ et un... Mais dans la confiance envers le Seigneur, de cette vie éternelle que le Seigneur lui promettait, il était dans l'abandon, dans la confiance, et il a pu être plus loin qu'on a pu avec lui, être plus loin que la joie, être vraiment dans la paix.
C'est communicatif, la paix de l'un vient apaiser l'autre.
C'est sûr, oui. On voit bien qu'une personne qui est dans la paix, etc., nous donne envie d'être dans la paix, enfin, et de, du moins on essaye.
Justement, vous évoquez les épreuves. Il y a des freins à la paix. C'est pas quelque chose qui va de soi, même si, comme vous l'évoquiez dans la première émission, ça peut sembler banal. La paix, en réalité, ça ne va pas de soi. Quels sont les freins à la paix?
Mais bien sûr, il y a les épreuves dont je viens de parler, mais après, il y a aussi ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas, comme certaines addictions, certaines pertes de temps. Du coup, après, on n'est pas dans la paix. Et puis après, ça peut être simplement des critiques. Et puis, le fait que cette paix, elle soit fragile, ça peut aussi nous freiner. En fait, peut-être qu'avant de rechercher cette paix, il est peut-être bon de voir que cette paix, comme elle est fragile, elle peut nous dérouter. Et savoir dépasser ses freins, ça peut nous aider à la chercher. Et non pas chercher ses freins pour faire une liste de difficultés, mais en étant conscience de ses freins, ça nous permet de savoir les surmonter.
Ça veut dire qu'il faut de temps en temps peut-être faire un point sur... ce qui, dans nos vies, nous préoccupe. Est-ce que c'est nécessaire de s'arrêter, faire le point?
De toute façon, ça fait toujours du bien de se poser partout avec le Seigneur. Mais peut-être que justement, pour aller plus loin, dans notre quotidien, dans nos habitudes, on a tous des choses qui nous empêchent d'être dans la paix. Par exemple, le temps perdu sur son téléphone, etc. Évidemment, c'est pas interdit de prendre du temps sur son téléphone, mais... si on le fait et qu'on regrette, après on n'est plus dans la paix. Alors que si on dit, ce soir j'ai rien envie de faire, j'ai passé mon heure sur mon téléphone, si on choisit, on va pas le regretter. Alors que si on le subit, c'est pas du tout la même chose.
Halte spirituelle, Madeleine Vatel.
Je vous propose d'écouter Saint François de Sales sur justement la maîtrise cette fois-ci de ses humeurs et de ses colères.
Ô Seigneur, avec ton aide, je veux m'exercer à la douceur dans les rencontres et les contrariétés quotidiennes. Dès que je m'apercevrai que la colère s'allume en moi, je recueillerai mes forces, non avec violence, mais doucement, et je chercherai à rétablir mon cœur dans la paix. Sachant que je ne peux rien seul, je prendrai soin de t'appeler au secours, comme le firent les apôtres ballottés par la mer en furie. Enseigne-moi à être doux avec tous, même avec ceux qui m'offensent ou me sont opposés, et jusqu'avec moi-même, ne m'accablant pas à cause de mes défauts. Quand je tomberai, malgré mes efforts, je me reprendrai doucement et dirai « Allons, mon pauvre cœur, relevons-nous et quittons cette fosse pour toujours. Recourons à la miséricorde de Dieu, elle nous viendra en aide. Ainsi soit-il. »
Merci à Bertrand Lachana qui lisait ce texte. Vous semblez dire que si c'est le désordre, si on subit davantage que l'on ne s'implique dans sa vie, est-ce que c'est un facteur de guerre, enfin de conflit personnel presque?
C'est sûr que si on a une vie désordonnée, ça sera peut-être plus difficile d'être sensible à la paix, de savoir se poser. Et puis, peut-être que du coup, ça sera difficile de lutter contre certaines addictions, contre certaines pertes de temps. Enfin, et après, ça sera à chacun peut-être de trouver l'équilibre qui lui plaît. On peut être dans la paix sans être ultra équilibré et avoir quand même une certaine souplesse.
Est-ce que c'est une discipline, vous diriez, pour parvenir à la paix ?
Discipline, ça fait peut-être un peu peur, mais je reprendrai le thème de central. Il y a un choix.
Choisis la vie.
Il y a un choix, ouais. de cette paix. De la même manière qu'on disait souvent, on a à choisir d'être dans la joie, mais là, qui est encore plus profond et encore plus durable, il y a à choisir d'être dans la paix. Et du coup, à lutter contre ces freins. Et chacun, en se connaissant, on voit bien là où on a nos mauvaises habitudes et là où on s'en veut. Et peut-être que chacun, particulièrement peut-être dans son temps de carême, on a des lieux à convertir pour être dans cette paix, cette paix durable qui vaut le coup.
Ce que vous semblez dire, c'est que combattre ces addictions, c'est pas l'ultime objectif. L'ultime objectif, c'est de parvenir à être dans la paix parce qu'on aura combattu ce qui vient troubler cette paix.
De la même manière que le but du carême, c'est pas de faire des choses, parce que c'est de nous préparer à accueillir le Christ. On n'est pas aux Jeux Olympiques de celui qui va faire le plus de jeûnes, de prières, de partages, mais si, en changeant les habitudes, on revient au Christ, de la même manière, le Christ nous apporte la paix. Et en changeant peut-être certaines habitudes dans nos addictions, peut-être en réduisant nos temps d'écran, pour certains, ça peut être d'autres choses. Il y a plein d'addictions dont certains sont esclaves. Et de dépasser cet esclavage, en fait, le jeûne, c'est pour nous rendre libres. Et du coup, de lutter contre nos addictions, c'est aussi d'être libre. Et la liberté, elle nous élève et du coup, elle nous redonne cette paix.
Alors vous citez une prière, justement, on parlait d'addiction. Vous citez dans votre livre une prière contre l'alcoolisme, c'est assez étonnant. C'est une prière à Alfred Pompalon, c'est une prière qui vient exhorter à quitter ses addictions.
Je dirais pas que c'est que pour l'alcoolisme, il est vu comme, entre guillemets, patron des addictions, mais lui, son addiction c'était l'alcool, et il avait un peu ruiné sa vie à cause de l'addiction au whisky. Il vient, par cette prière, demander qu'on soit libéré justement de nos addictions qui nous empêchent et qui nous enferment. Et du coup, tant qu'on est enfermé, on peut pas être dans la paix.
Dans votre ouvrage, il y a un passage qui m'a étonnée, c'est « La paix est-elle illusoire ?» Est-ce qu'il peut y avoir des moments où l'on croit que cette paix est là et en réalité c'est une illusion, ce n'est pas véritablement la paix à laquelle on est invité de vivre ?
Que ça soit la paix sur la cour internationale ou dans nos familles, on a tous des moments où on se dit à quoi bon, et qui peut nous décourager de chercher cette paix. Souvent on dit ça marchera jamais, on n'y arrivera pas. Et du coup, il peut avoir un côté face à la difficulté de certaines paix et des conditions, etc., qui peut nous décourager et nous freiner à la recherche de cette paix, en disant à quoi bon. Enfin, et du coup, ça nous empêche d'avancer.
Il y a des harmonies qui sont illusoire, vous diriez?
Illusoire, oui, et en même temps, et aussi beaucoup plus difficile à trouver. Certaines demandent plus de travail.
Alors, vous proposez également dans votre ouvrage d'essayer, en fin de compte, d'instaurer cette paix dans le quotidien. Alors, à la fois en évitant les pertes de temps, à la fois en identifiant ses addictions, à la fois en essayant de dépasser ses épreuves, mais aussi peut-être en instaurant des rituels de paix. Alors, il y a la prière du matin, la prière du soir. C'est des moments marquants d'une journée qui peuvent permettre de se mettre dans une disposition, une disponibilité, comme vous le disiez en début d'émission.
Bah, si c'est le Seigneur, comme j'en suis convaincu, qui nous apporte la paix, bah, le temps de prière nous aidera à accueillir et à demeurer dans cette paix. Surtout avec la prière des heures qui permet d'encadrer notre journée, et en étant dans la paix dès le matin avec le Benedictus, où on accueille cette paix, et avec le soir avec Siméon, maintenant maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Et du coup, bah voilà, à travers cette liturgie de l'Église qui nous aide à être dans la paix tout au long de notre journée.
Oui, vous citez le cantique de Siméon, c'est vrai qu'il est magnifique, il est lu dans les communautés religieuses le soir.
Tous les soirs, mais il y a de plus en plus de fidèles qui prient complices tous les soirs, et c'est vrai que c'est une magnifique prière d'abandon, de confiance, et aussi pour s'en remettre au Seigneur dans la paix. Et en plus, il se trouve que l'antienne, elle insiste sur cette paix, sauve-nous Seigneur quand nous veillons, garde-nous Seigneur quand nous dormons, nous reposerons dans la paix. Enfin, du coup, voilà, il y a cette vraie insistance sur cette paix avant de se coucher.
Voilà, invoquer la paix avant de fermer les yeux le soir, voilà ce que vous proposez, Père Guillaume Le Floch. Vous êtes curé de la paroisse de Marne-la-Coquette et Vaucresson, et l'auteur de ce livre, Éloge spirituel de la paix. Merci à vous. Merci.